première.
Oui.
Oui, oui.
22h, 23h. Par où dire ?
Pascal Tison.
Dis-moi. Par où dire ? Guy Bedos a été enterré, selon son souhait, dans le cimetière de Lumio en Corse, une île qu'il aimait tant. Il l'appelait « mon Algérie de rechange », à cause des odeurs de maquis qui lui rappelaient son enfance. Guy Bedos est mort le 28 mai à l'âge de 85 ans. Le comédien, humoriste et auteur se définissait avant tout comme un pur résilient. Tout son parcours d'artiste engagé, d'anard de gauche, de pamphlétaire énervé, d'éternel révolté, puis ses racines dans son enfance algéroise, entre un beau-père raciste et antisémite et une mère pétainiste, un bon début. En 2013, à l'Olympia, Guy Bedos avait mis un terme à près de 40 ans de carrière seul sur la scène, ce qui avait fait sa renommée internationale. Devant une salle comble, il livrait sa der des der, du nom de son spectacle, avouant « Il n'y a que sur scène que je suis bien ». À près de 80 ans, il n'avait rien perdu de son franc-parler qui lui avait valu autant d'amis que d'ennemis. Il assumait complètement « Je manque de nuances, absolument, je manque de nuances ». Il y a une phrase de ce vieux réac de Sacha Guitry que je m'approprierais bien volontiers. « Depuis que j'ai compris quels étaient les gens que j'exaspérais, j'avoue que j'ai tout fait pour les exaspérer ». Un portrait lors d'une rencontre avec Michel Cédric en 1978 et 1982 à l'occasion de ses spectacles au Théâtre 140 à Bruxelles.
Au fond, c'est peut-être pas un spectacle, c'est peut-être plutôt une campagne préélectorale.
Ah non, oui, non, ça serait simplifié ce que je fais. Je suis pas agent électoral d'un parti, je hurle un peu partout, je l'ai dit, au risque de radoter, j'appartiens à la Première Internationale humoriste, avant tout, et je ne suis pas mandaté par un parti quelconque, ni de gauche, ni de droite, bien sûr. Bon, quand, évidemment, on connaît mes sympathies pour la gauche, c'est vrai, française, et belge d'ailleurs, ils ont fait des choses bien, c'est eux qui ont commencé à embêter Sardou. Ils ont donné le ton. Mais d'autre part, je veux dire que j'ai tout de même des petits lazzi, des petites arlequinades qui ne sont pas fatalement agréables aux oreilles de gauche, et notamment de la gauche officielle. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire, je suis un homme libre, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ?
Libre, si vous en parlez, libre. C'est par souci d'actualité uniquement, alors ?
Non, c'est que parce que je réfute aussi le côté chansonnier, actualité souriante, genre en France, tout finit par des éclats de rire. Ça. Non, parce que chez moi, il y a quelque chose de plus violent, je crois, de plus sérieux, si on peut dire, dans mon comique. C'est-à-dire que je cherche à faire rire, bien sûr, d'abord. Hein, parce que très souvent, dans les articles qui parlent de moi, et même qui me font parler, manque évidemment la musique de ce que je dis. Même quand on rapporte très fidèlement mes propos, noir sur blanc, ça, alors ça a l'air d'un discours un petit peu austère, vous voyez, j'ai l'air de faire des déclarations un petit peu pontifiantes, tout ça. Or non, sur scène, je cherche à faire rire avec des choses tristes, souvent. Voilà, c'est tout. Mais, en même temps, c'est vrai, on peut plus dire de moi avec lui, on oublie nos soucis. Non, parce que je parle aux gens de leurs soucis, tout de même, qui sont d'ailleurs les miens, très souvent. Et voilà, et simplement, on essaie d'en rire ensemble. Je n'impose rien, je laisse les gens libres, eux aussi, de ne pas partager mon point de vue, ma musique, en somme.
Voilà. Mais donc, ça dépasse le stade de faire rire les gens. C'est oui, leur faire prendre conscience parfois
j'aborde
de certaines choses.
Des thèmes graves. Oui, je ne sais pas. Tout à l'heure, on entendra peut-être un extrait je dis un extrait parce que c'est assez long, ça dure 5 minutes, d'un sketch que je joue sur la bombe atomique, par exemple. Bon, au départ, c'est pas franchement hilarant, la bombe atomique. Et pourtant, les bonsoirs, les gens rient. J'en ai la preuve puisque j'ai un enregistrement public. Et les gens rient à ça, mais d'un certain rire, vous voyez ? D'un certain rire. Enfin, je ne vais pas voler la formule de Bernard Allaire qui avait appelé son spectacle « Un certain rire incertain », mais il y a un peu de ça, il y a, si vous voulez, il y a une espèce d'interrogation, il y a « qu'est-ce qu'on va devenir, nous tous, quoi ?» derrière presque chacun de mes personnages. Alors, il y a les personnages, parce que aussi, en rendant compte de mon spectacle, quelquefois, et avec toute la bonne volonté possible, certains de vos confrères, de la presse écrite notamment, ou consoeurs, ont un peu privilégié tout l'aspect, justement, meeting, si on peut dire, pamphlétaire, où j'interpelle, en somme, l'époque, etc. C'est un peu vrai, mais en temps de spectacle, ça doit durer à peu près un quart d'heure, tout ça, cette partie-là, cette partie de comédie dell'arte. Et puis le reste, ce sont des personnages. C'est une fille de personnages écrits que j'interprète en auteur-acteur. Je joue des sketchs, quoi. Je veux dire, c'est pas. Je passe pas ma soirée à parler des gens nommément, tout ça, parce que justement, je veux tout de même éviter le côté chansonnier, quoi, parce que c'est pas du tout ça que j'aime. Parce que les chansonniers, y avait toujours un petit côté franchouillard, il faut bien le dire. On est un peu râleur, mais au fond, on s'aime bien. Moi, il y a des gens dont je parle, je les aime pas bien du tout. et je veux dire, j'ai pas du tout envie d'aller déjeuner ou dîner avec eux après. Hein. Et d'ailleurs, eux non plus.
C'est un critère quand vous aimez bien des gens, c'est que vous avez envie d'aller manger avec eux.
Oui, enfin, c'est une façon de parler. On peut aller même plus loin. Que le déjeuner, le dîner, le souper.
On parlait de
petit déjeuner. Enfin, vous voyez, la vie, quoi.
Vous parliez de politique et j'ai lu que votre conscience politique serait née quand même fort, fort tôt. Il faut dire que vous étiez en Algérie à l'époque. Vous aviez 8 ans, si je ne me trompe.
Ah, vous avez lu mon livre, vous. De la droite la plus charnelle, si on peut dire, puisque vous savez, les pieds noirs, ce sont les Texans, les Français, quoi. C'est le sud avec tout ce que ça implique, de férocité tranquille. Enfin, j'ai entendu des horreurs, moi, dans mon enfance. J'entendais des braves dames qui aimaient bien leurs petits, qui étaient tout à fait fréquentables à d'autres niveaux, me dire « Mais il y en a trop des Arabes, il faudrait... Pourquoi il y en a trop à la naissance ?» Alors, elles n'étaient pas pour la contraception, hein, évidemment, des moukers, ça n'allait pas jusque-là, mais elles disaient qu'on pouvait en noyer un petit peu, en faire disparaître. Enfin, c'était la solution finale. On leur aurait dit qu'elles étaient hitlériennes, elles auraient ouvert les grands yeux en disant « Mais qu'est-ce qu'ils racontent ?» Elles l'étaient, totalement.
Mais cette éducation que vous avez eue, cette éducation qui était de droite, vous venez de votre mère ?
Je venais du milieu dans lequel je vivais. C'était plutôt mon beau-père, qui est le mari de ma mère, qui lui était, je m'en rends compte maintenant, qui était un fasciste absolu. Un fasciste, d'ailleurs, il écoutait pendant la guerre en Algérie, alors qu'on n'était pas réellement concerné directement. Il y avait un peu la guerre chez nous aussi, il y avait le front de Tunisie, on voyait les Américains qui passaient par là, le temps de s'attacher et de mâcher 2 tablettes de chewing-gum et le type était mort. Mais mon beau-père écoutait les éditoriaux de Philippe Henriot, qui a été d'ailleurs assassiné par les FFI à la Libération.
Mon beau-père, le diable et son âme, il est mort depuis. Et bon, ça a été le patron, quoi. Le patron. Il était patron chez lui, il était patron partout. Femmes, enfants, employés, ouvriers, tout ça. Et ça détruit d'ailleurs aussi l'image de la lutte des classes au sens où on a conscience de sa classe, de son milieu d'origine, tout ça, car c'était un ancien ouvrier, de milieu pauvre. J'ai remarqué que ce sont les pires, les anciens pauvres, qui deviennent riches. Ils sont terribles, souvent.
Alors, vous aviez déjà envie de faire quelque chose à ce moment-là, en disant « je ne peux pas laisser faire », ça vous est arrivé de vous révolter ou...
Ah, carrément, oui. Oui, oui. Parce que, si vous voulez, ça a été, d'une certaine manière, ça a été le premier gouvernement que j'ai connu. Et la première occupation, si on peut dire. J'ai eu l'impression que les parents... J'aimerais pas que ma mère entende ça, parce que c'est plus nuancé, hein, chez une mère, enfin chez ma mère en tout cas. Elle a été elle-même victime de tout un système, justement, un système familial. Car je crois effectivement que la politique, ça commence déjà dans la famille, et au moment de l'enfance. Vous me parliez de Jean-Daniel hors antenne tout à l'heure. Jean-Daniel qui a beaucoup de points communs avec moi, puisque il est pied noir aussi, il est né en Algérie. Je ne suis pas juif, moi, mais je me soigne, comme disait je ne sais plus qui. Je mériterais de l'être. Il est né, effectivement, en Algérie. Il est devenu un homme de gauche qui compte, comme moi, quoi. Simplement, nous n'avons pas la même manière de faire passer nos idées. Lui écrit des éditoriaux, moi j'écris des sketchs. Mais enfin, finalement, nous sommes deux journalistes, chacun à sa façon. Ben, par exemple, j'ai lu avec beaucoup de jalousie, il faut bien le dire, son livre dont, là, à l'instant, j'ai oublié le titre, qui s'appelle « Le refuge et la source », très exactement, où il parle de son père, de sa mère, de sa famille, de ses frères, de ça. Évidemment, j'ai pas eu cette chance-là. Donc moi, ça a été la révolte, tout de suite. La révolte contre cela. Et justement, le sentiment... de résistance contre un ordre établi, qu'on peut contester. Donc, vous voyez, je veux dire, bon, ben après, oui, mai 68, tout ça, mais oui, bien sûr, mais je sais pas, je veux dire, pour moi, ça fait partie de... C'est viscéral chez moi, je veux dire, ça me bagarrer contre l'autorité, contre une autorité... non mérité, si on peut dire, car évidemment, je reconnais... quand je tourne avec un metteur en scène, par exemple, si c'est Jean Renoir, j'écoute. Hein.
Vous l'aimez bien.
Ben oui. Si c'est Yves Robert aussi, vous voyez, je veux dire... Mais si c'est un connard, le fait qu'il ait sa casquette, son képi de metteur en scène, ne lui donne aucune force particulière, bon, d'ailleurs, il n'y a pas de problème, parce que je ne travaille pas avec les gens qui ne me plaisent pas. Mais quelquefois, on s'aperçoit trop tard qu'ils ne vous plaisent pas. Alors ça donne des choses assez dramatiques. Je suis profondément un insoumis. Ce qui fait que j'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance parce que je fais un métier tel que je le fais, en tout cas, sur ma petite île, là, sur ma scène, avec des gens autour. Je suis bien.
Seul maître à bord.
Oui, oui, je me sens très autonome comme ça. Ça ne m'empêche pas de communiquer avec ces gens-là qui sont là.
Et vous disiez tout à l'heure, oui, je suis un pied noir comme Jean-Daniel. Il y a toutes sortes de pieds noirs, parce que quand vous dites je suis un pied noir, mais plus proche d'Albert Camus que d'Enrico Macias, ça veut dire tout, quoi. On vous voit quand on...
Oui, c'est ça qu'évidemment, je ne ressemble pas au pied noir. Je casse un peu l'image du pied noir, couscous, merguez, qui parle avec les mains et qui appelle tout le monde mon frère, etc.
Mais qui dit pied noir dit quand même déraciné. Et je crois que vous êtes content de l'être.
Content, pas content. C'est vrai que, quand même, tant j'ai le sentiment d'être très libre comme ça, parce que justement je ne suis pas dépendant de toutes sortes de pesanteurs familiales, régionales, etc. Mais j'ai une petite nostalgie, c'est vrai, si, tout de même. Je vous l'ai dit, je suis un petit peu jaloux par moments de ceux qui peuvent revenir. Enfin, le fameux refuge, quoi. Le titre de Jean-Daniel est superbe. Je voulais lui écrire, d'ailleurs, à l'époque, quand j'ai lu ça, parce que j'ai été très touché. J'ai lu ça à toute vitesse. C'est un petit livre qui est un grand livre.
Mais si votre famille ne vous a pas tellement apporté de choses positives, alors c'est le pays qui vous l'a apporté, parce que quand vous êtes retourné, je ne sais plus en quelle année c'était pour la première de Z avec Nadine et Jean-Louis Trintignant, vous êtes retourné en Algérie. Mais vous dites, à ce moment-là, je suis retourné près des maisons où j'avais vécu. Donc c'est quand même une nostalgie de l'enfance, même
bien
si
sûr. bien sûr. Mais ça, c'est, ce sont les contradictions que nous avons, bien sûr, oui, oui, oui. Oh ben oui, l'enfance, moi, c'est une chose qui me revient par flash, comme ça. Enfin, je félinise beaucoup, vous savez, moi, dans la vie. Si je tournais ce que je sens, si vraiment ça tournait tout le temps, ce serait assez... superbe, je m'ennuie pas du tout avec moi.
On s'ennuie pas avec vous, ce qui n'est pas mal non plus.
Mais ce qui m'étonne un petit peu comme ça quand vous êtes sur scène ou même dans vos livres, je trouve que vous n'êtes pas très, très tendre avec votre mère. Votre mère, vous dites, par exemple, non, c'est dans manque de tendresse. Bon, je ne sais pas, ce n'est pas vous qui parlez, c'est
non, ce mais vous snob. Avez raison, vous avez raison, je me cache à peine derrière un personnage. C'est de ma mère qu'il s'agit. Oui, vous avez raison.
Oui. C'est terrible d'oser faire ça.
Ouais, je trouve que je suis même très, très, très poli et même un tout petit peu timide. Il y a beaucoup mieux à dire, beaucoup plus.
Même après autant de temps,
j'attends qu'elle meure.
Oh, quelle horreur. C'est vrai, même après autant d'années, parce que bon.
Non, je n'ai pas dit que je voulais qu'elle meure. J'ai dit que pour en parler réellement, il valait mieux qu'elle ne soit plus là. Mais elle m'enterrera.
Mais le pardon, c'est... non, c'est pas ça. C'est.
Si, jusqu'à un certain point, jusqu'à un certain point.
On n'oublie pas.
Non, c'est très difficile. À un ancien enfant de pardonner certaines choses. Et curieusement, la rancune vient quelquefois en vieillissant, parce que on commence à faire l'inventaire de tout ce qui a accompagné toute une vie, et on est un enfant très longtemps pour sa mère. Et quand on s'aperçoit que, d'une certaine manière, une mère a été à côté de la plaque tout le temps, depuis le début de la vie jusqu'à la maturité, quoi. Et qu'on l'a jamais trouvée quand il fallait, qu'elle a toujours été décevante, un peu plus que ça même, odieuse. En même temps, j'ai pas écrit un livre comme La fille de John Crawford, hein. J'ai pas fait... Très chère maman, pourtant il y a des séquences dans le film que j'ai vu. Je n'ai pas lu le bouquin, mais j'ai vu le film. En plus, ma mère ressemble à John Crawford physiquement. Elles sont toutes les deux... À mon avis, Crawford avait des problèmes de thyroïde. Sûrement. Elles ont le même regard lourd comme ça. Mais en fait, c'est un début de maladie de basse dos. ce regard. La différence entre John Crawford et ma mère, c'est que la mienne n'a pas tourné Johnny Guitar.
Mais vous la voyez ? Vous la voyez encore ?
Non. La dernière fois que je l'ai vue, c'était au premier rang de Bobino. Elle était venue, elle avait payé ses places. Et elle est venue pour me narguer.
Elle en voulait vraiment.
Oui. Elle est venue. On s'était pas vu depuis plusieurs années. Et c'était le côté, ben, puisque c'est comme ça, je vais payer, puis je vais te voir, et puis tu vas me voir. Effectivement, je l'ai vue.
Puis je vais t'applaudir ou je vais te huer.
Non, mais elle était là pour m'emmerder. Elle n'était pas là. Elle était là pour me gêner. Elle m'a gêné affreusement. J'ai failli arrêter le spectacle, d'ailleurs.
Mais qui sait s'il n'était pas venu là pour... C'était peut-être une approche. Elle essayait peut-être.
Mais vous réglez votre problème, là. Vous avez un fils ou quoi?
J'en ai un, oui.
Il me semble qu'on a parlé de ma mère, déjà. Dans la dernière émission, non ?
Non, je l'ai réécouté, Guy Bedos.
Ah bon ?
Non, on n'en avait pas parlé. C'est pour ça que, en réécoutant cette émission, je me suis dit, tiens, on ne parle pas de sa mère. Et puis, ça m'avait frappé quand j'ai revu Un éléphant, ça trompe énormément aussi, là, avec toute cette scène avec votre mère et tout. C'était bien dans Un éléphant.
Oui, et dans
là
l'autre.
Là aussi, ça m'a frappé.
Dans l'autre, dans
Nous irons tous au paradis. Non, mais ça, je ne l'ai pas vu. Et puis maintenant, en vous voyant sur scène, j'ai mis
encore
cette
c'est pas moi qui l'ai écrit, hein, le film.
Non, d'accord.
Mais c'est vrai que Dabadi, qui est mon meilleur ami, s'est inspiré du personnage de ma mère. Ma mère est plus belle que Mandina Longa. Elle a ça pour elle. Mais enfin, qu'elle soit belle à moi, oui, il y a longtemps que j'ai réglé mon Oedipe. Hein. C'est pas vraiment un avantage.
Mais de cinéma, l'autre fois, on n'avait pas parlé non plus. Pourquoi maintenant on ne vous voit plus là ? Il y a de nouveau une cassure ou...
Oui, mais parce que d'abord, j'aime beaucoup plus le métier que je fais sur scène, c'est vrai. Et puis, J'ai bien aimé les deux films là, que j'ai fait, justement.
Vous étiez avec des copains aussi.
Oui, j'ai préféré le deuxième. Mais justement, comme j'ai eu la chance de faire ce qui se fait à peu près de mieux dans le cinéma dit comique français, je vois pas pourquoi j'irais tourner toutes les gaudrioles qu'on m'a proposées depuis, ou bien le contraire, c'est-à-dire des films très militants, très obscurs, et qui sont destinés à avoir 3 spectateurs, dont ma mère d'ailleurs. Alors franchement...
Tu paieras sa place.
Oui, elle paiera sa place, comme d'habitude. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je me fais mon cinéma à moi, il y a du monde qui vient me voir, je suis sûr du montage. J'aime mieux continuer à faire comme ça. Le cinéma, pourquoi pas? Moi, je suis un cinéphile, j'aime beaucoup aller au cinéma. Mais j'ai tendance à vouloir tourner dans des films que j'aurais envie de voir après, vous voyez? Je n'arrive pas, comme certains de mes camarades, à dichotomiser, à séparer l'acteur du spectateur. Je connais des acteurs qui, en tant que spectateurs, sont absolument implacables. On parle de Fellini, de Woody Allen, des Torrescola, etc., avec une sévérité incroyable. Enfin, ce seraient des critiques excellents. Mais alors, quand ils tournent, on les voit en train de jouer un concombre dans un film de Funès, et alors là-dessus, il faut bien bouffer. Bon, moi, j'ai pas besoin du cinéma pour bouffer, puisque... Ben,